Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence. Donc ça fait 5 semaines qu'on n'était pas là, dis donc. Voilà, Jean-Mathias pouvait pas venir ce soir. Donc je vais assurer l'émission en compagnie de José, qui est à la technique et qui va vous passer des morceaux de musique. Il a oublié de les écrire, donc vous pourrez tous les retrouver sur le site Gurdulu. Vous tapez Gurdulu, archive, Jeudi Noir, et vous trouvez toutes nos émissions. Il y en a une bonne centaine. C'est génial. En toute modestie. Voilà, donc ce soir je vais vous parler d'un livre de Shlomo Sand, publié chez Champ Essai, enfin chez la collection Champ, enfin dans les maisons d'édition au Champ, collection Essai, qui s'intitule « Le crépuscule de l'histoire », avec en sous-titre « La fin du roman national ?» point d'interrogation. Donc voilà, un livre de Shlomo Sand. Alors qui est Shlomo Sand? C'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv. Et alors, il a publié quelques ouvrages qui ont fait un certain bruit, en particulier « Comment le peuple juif fut inventé » en 2010, ou « Comment la terre d'Israël fut inventée » en 2014, et « Comment j'ai cessé d'être juif » en 2016. Alors, c'est un Israélien antisioniste. Enfin, c'est compliqué de dire antisioniste parce que il vit en Israël, il aime son pays, tout ça, mais il déteste un petit peu toute la mythologie qui entoure l'État d'Israël, et il s'est ingénié dans son travail d'historien à la déconstruire de manière assez radicale et à montrer dans quelle mesure. Alors moi, j'ai pas lu tous ses livres, j'ai lu Comment le peuple juif fut inventé, qui est un excellent livre dont la méthodologie pourrait s'appliquer à mon avis à peu près à toutes les nations. Et à tous les peuples, parce que quasiment tous les peuples dotés d'un État-nation prétendent avoir une espèce d'unité biologique. Et dans Comment le peuple juif est inventé, il montre qu'en réalité, si on veut comprendre un petit peu l'histoire du peuple juif, il faut prendre en compte, entre autres choses, le phénomène de conversion. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs se sont convertis au judaïsme avant le deuxième siècle après Jésus-Christ. Et ce qui a permis à la religion juive, au judaïsme, de s'implanter un peu partout dans le monde méditerranéen et européen, sans qu'il y ait pour cela nécessairement de continuité biologique. Et une de ses grosses thèses, c'est que la diaspora en 70, lors de la seconde destruction du temple, n'a pas eu lieu, et qu'en fait la plupart des juifs sont restés sur place. Et qu'une bonne partie d'entre eux se sont convertis à l'islam plus tard, hein, après l'Égypte, pour se débarrasser des païens qui les opprimaient. Bref, c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne doit pas avoir que des amis dans l'État d'Israël. Vu que bon, il enseigne à Tel Aviv, hein, je vous le rappelle. Donc voilà. Et dans ce livre, Le Crépuscule de l'Histoire, ben, en fait, il va s'attaquer. Alors, c'est un livre que je trouve très intéressant, très riche, bourré de références. Je pourrais pas vous parler de tout dedans, parce que c'est un livre qui en fait revient, fait un retour réflexif sur la discipline historique elle-même. Et dans ce livre, Shlomo Sand essaye. Le Crépuscule de l'Histoire essaye de mener une réflexion à la fois critique et relativement radicale de sa propre discipline. Et selon quel axe ? Alors c'est un axe qui va être à la fois, je pourrais dire, politique et épistémologique. C'est-à-dire que d'une part, il s'interroge sur la possibilité qu'a la discipline historique d'atteindre une certaine vérité, et d'autre part, il va toujours relier cette question, finalement, au lien qu'entretient la discipline historique, enfin l'histoire, pour aller vite, avec l'État et avec les institutions politiques qui payent les historiens, payent les institutions dans lesquelles ils travaillent. Et il s'interroge de ce fait sur la possibilité pour l'histoire d'être objective. C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'histoire peut atteindre la vérité, d'une part en soi, et d'autre part sachant dans quelles conditions elle est écrite et enseignée. Et ces conditions étant définitivement politiques. Donc c'est une grosse question, c'est une question à la fois, bon, c'est relativement classique, mais c'est une question qui est souvent débattue, qui est intéressante et qui, à mon avis, est importante. Et donc, la question qu'il pose, il explicite donc dans la page 19 de son ouvrage, donc Shlomo Sand, hein, Crépuscule de l'Histoire. Donc, les idéologies et les sensibilités politiques ont un impact sur l'élaboration du passé et sur sa mise en forme. Est-il possible de les laisser de côté ou, tout à le moins, de les minimiser ? N'ont-elles pas constitué le moteur essentiel de la recherche historique, de son écriture, de son financement et de son enseignement au cours des deux derniers siècles, et ce, dans le monde entier ? Faut-il admettre l'impossibilité présente et future d'une histoire moralement neutre, autrement dit d'une historiographie scientifique ? Une éthique politique très particulière ne se trouve-t-elle pas à la base et dans le développement de la discipline qui traite du temps humain ? La majeure partie de l'écriture historique n'a-t-elle pas longtemps tenu lieu de théologie moderne, destinée à entretenir et à transmettre, consciemment ou pas, des mythes nationaux fondateurs. Donc, beaucoup de questions auxquelles il va essayer de répondre, parce que il est évident que les idéologies, si je reprends la première question, que les idéologies et les sensibilités politiques ont un impact sur l'élaboration du passé. Bon, c'est très très complexe de faire une histoire neutre, c'est peut-être même impossible. Ensuite, est-il possible de les laisser de côté ou tout à la moins de les minimiser ? Je pense que c'est vraiment ça la grosse question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut détacher, ne serait-ce que partiellement, mais de manière satisfaisante, l'histoire de l'idéologie ? Et ensuite, l'autre question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut détacher l'histoire de l'idéologie d'État ? Et là, ce que va faire, ce qui rend aussi son livre intéressant, je me sens, ce qu'il va essayer de faire, c'est de répondre d'une certaine manière historiquement à cette question qui porte sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il va historiciser l'histoire, ou il fait l'histoire de l'histoire, pour formuler les choses de manière un peu, un peu pédante. Donc, mais ça, il va le faire d'une manière critique. Alors, il commence, je trouve, par un chapitre que je trouve extrêmement intéressant, qui s'intitule « Défaire le mythe des origines ». Donc ça, c'est son dada. Il défait tous les mythes des origines, que c'est l'origine de l'État israélien, et là, ça va être l'origine de l'Europe. Donc, il commence toujours ces chapitres par des citations assez croquignolettes, qu'en général, que parfois ils s'amusent à démolir. Donc là, je vous en lis une, c'est Ernest Lavis, 1890, enseignement secondaire, instruction, programmes et règlements. Donc, Ernest Lavis, l'histoire de la Grèce et de la Rome, c'est déjà notre histoire, puisque les origines de l'intelligence et de la politique moderne y sont déjà contenues. Donc, voilà, nous sommes, c'est ce que nous dit Lavis, des descendants des Grecs et des Romains. Bon, pour Shlomo Sand, c'est faux, archi-faux et ultra-faux. On ne peut pas faire plus faux, en fait. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il va démonter, finalement, ce cadre historique qui est le nôtre et qui se découpe selon Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Donc, c'est un truc en quatre temps. On a tous appris ça à l'école primaire, et ça nous a tous été enfoncé dans le crâne au collège et au lycée, à coup de masse. Donc c'est ça qu'il s'amuse à démonter dans son premier chapitre. Alors je sais pas s'il a raison, mais en tout cas, malgré tout, je trouve que la tentative est intéressante. Donc, parce que lui, il commence par dire que quand il est arrivé à l'université de Tel Aviv en tant qu'étudiant, dans le département qui était nommé département d'histoire générale, le cadre exclusif était en réalité l'histoire de l'Europe et de l'Occident. C'est-à-dire que l'Asie et l'Afrique n'avaient pas d'histoire, tout simplement, ou n'étaient pas étudiées. Il écrit « Le monde occidental était encore perçu comme dépourvu d'une histoire véritable. Voilà. » Pas d'histoire africaine, pas d'histoire asiatique, effectivement. Alors, on sait tous, en tout cas, on ne l'a jamais appris à l'école, cette histoire-là. Et en plus, lui, vu les années dans lesquelles il a étudié, dans les années 60-70, d'après ce que je peux comprendre... Cette division canonique, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et histoire contemporaine, avait été en partie justifiée, mais aussi utilisée par Marx et sa vision évolutionniste de l'histoire. C'est-à-dire que globalement, l'histoire, ce serait quoi ? Ce serait temps linéaire, plus Europe, plus progrès. Voilà un petit peu comment les choses se présentent. Donc, j'avais une citation, voilà, page 30. Pour tout le monde... L'histoire, en marche depuis l'Antiquité, avait franchi un long intermède appelé Moyen-Âge, s'était ébroué dans la Renaissance, avant de s'épanouir à l'ère des Lumières, puis de parvenir, au terme d'une course géniale, à l'époque moderne occidentale, c'est-à-dire à nous autres, les élus. Ce paradigme linéaire était bien sûr totalement imprégné de l'arrogante supériorité du moderne à l'égard de tout ce qui l'a précédé, forcément inférieur et arriéré. Et donc... Cette conception linéaire de la temporalité historique s'appuie aussi et cache en partie l'image d'un espace qui va être homogène. Homogène à plein de niveaux. Homogène racialement, homogène culturellement, homogène religieusement. Ce serait l'Europe. Et déjà, premier obstacle. Alors ça, c'est la mythologie, cette espèce d'espace uni dont je vous parlais qui s'appellerait Europe. Parce que l'Europe elle-même, finalement, ne recouvre pas vraiment un continent, déjà. Mais alors ça, il écrit, ça n'a rien altéré le consensus ni la rhétorique habituelle. Athènes, Sparte et Rome ont fait partie de l'Europe dans le passé, tout comme Paris, Berlin et Londres en font partie aujourd'hui. L'Antiquité a, ainsi, commencé sur le continent élu, aux racines indo-européennes, dont l'histoire s'est déployée, non sans quelques soubresauts, durant plus de 3000 ans. Alors... Petite remarque ironique que fait Shlomo Sand. Le terme Europe trouve précisément son origine dans les langues sémites. Bon, oui, déjà, bon, en gros, ça vient d'Afrique. Premier problème. Bon, ça, c'est un premier souci. Ensuite, en fait, c'est ce premier doute. Il dit que c'est ce premier, c'est à partir de ce flou géographique. Qu'il a élaboré ses premiers doutes concernant la division traditionnelle du découpage historique. Et donc, lui, il va proposer un récit alternatif, en fait. Un récit alternatif, c'est-à-dire qu'il va proposer un autre découpage de la temporalité historique qui conduit en partie à l'Europe. Si je le résume rapidement, enfin, je peux essayer un petit peu, il va partir finalement de la Mésopotamie et de l'Égypte, dont on a tous entendu parler, mais qui est souvent coupé finalement, ce début mésopotamien, donc la Mésopotamie, c'est ce que c'est aujourd'hui, c'est l'Irak, l'Iran, tout ce qu'on a, c'est entre le Tigre et l'Euphrate. Et ça, c'est quelque chose dont on entend tous parler à l'école, mais qui est curieusement coupé de la Grèce, coupé de Rome, coupé de nous. On entend dire que tout un tas de choses se sont passées par là, mais il y a comme une rupture entre les Mésopotamiens et les Égyptiens et les Grecs. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est que finalement, c'est en Mésopotamie et en Égypte, mais à la même période à peu près en Chine aussi, que ce qu'il appelle les sociétés hydrauliques vont concrétiser la révolution néolithique. Alors ça fait beaucoup de choses. La révolution néolithique, c'est le moment, il y a environ 7000 ans, je crois, 7-8000 ans, où les hommes commencent, faudrait vérifier ça, je dis peut-être une bêtise sur la datation, où les hommes commencent à, les êtres humains commencent en tout cas à domestiquer le bétail et la végétation. On commence donc à faire des stocks, à faire tout un tas de choses comme ça. Et où est-ce que la révolution néolithique va se stabiliser? C'est dans des sociétés qui, finalement, longent des fleuves, où on peut plus facilement cultiver la terre après des crues. Il y a du limon, donc il y a une espèce d'engrais naturel qui rend la terre relativement fertile. Et à partir de là, les gens vont monter des grands systèmes d'irrigation, vont construire des états. On va se retrouver avec aussi, à partir du moment où il y a des états, de l'agriculture, de l'élevage, on a des stocks, on a de l'écriture, on a du commerce, on a tout un tas de choses qui apparaissent. Et qui sont, pour pas mal d'historiens aujourd'hui, à la base de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la révolution néolithique, à cet égard, est peut-être plus importante que la révolution industrielle. C'est un phénomène d'une envergure comparable, parce que ça a drastiquement changé les modes de vie des hommes et des femmes à travers le monde. Ou en tout cas, les mondes où cette révolution s'est établie. Et donc, pour lui, tout part de là. Et c'est seulement ensuite que les sociétés méditerranéennes apparaissent, en empruntant énormément de choses, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, aux sociétés nées en Mésopotamie et en Égypte. En empruntant beaucoup de choses, en adaptant certaines techniques, mais en reprenant aussi des mythes, des techniques, des mythes, voilà, ils ont pillé la culture, ce qu'il appelle les cultures mésopotamiennes, enfin égyptiennes, ils ont détruites aussi. Et tout ça s'est fait, sur des bases différentes, du fait d'une différence de climat, la proximité de la mer, etc. etc. Bon, c'est une histoire qui est assez matérialiste finalement, celle qu'il nous raconte. Il y a peu de choses qui ont lié trait à la culture, c'est lié beaucoup à des techniques différentes qui impliquent des modèles sociaux différents. Il est un petit peu marxiste, je pense. Alors, c'est là qu'il fait, c'est à ça que je voulais en venir, parce que je trouve que c'est quand même un excellent passage dans le bouquin, un petit aparté sur la Grèce. Quand on a fait des études de philo, on nous parle particulièrement du miracle grec. On a l'impression que Athènes sort de nulle part. Athènes est un effet sans cause. Les Grecs inventent tout. Ils inventent la démocratie, ils inventent la philosophie, les mathématiques, ils inventent tout. Bon, on oublie de nous dire souvent que la démocratie concernait 10% des citoyens, parce que les femmes grecques, les esclaves et les métèques, eux, n'avaient pas droit à la citoyenneté, les enfants non plus. Donc c'était une démocratie qui était quand même très très limitée. Et d'autre part, on oublie aussi, alors ça, bon, à la rigueur, c'est un régime dégueulasse, on prétend s'en inspirer, c'est faux, mais bon. Mais ce qu'il faut ajouter, et ce qui a fait grand bruit, c'est qu'il y a un anglo-saxon qui s'appelle Martin Bernal, qui a publié un livre qui n'a pas été traduit en français, semble-t-il, qu'on pourrait traduire par l'Athéna noire. Et en fait, ce que Bernal soutient dans son livre, c'est que les Grecs de l'Antiquité, finalement, ont pris énormément de choses aux Égyptiens. Et en particulier Athéna, qui s'inspirerait, moi tout ça j'en sais strictement rien, hein, mais en gros il dit qu'Athéna, déesse grecque de l'intelligence et de la guerre, est l'identique de Net, la célèbre déesse des Égyptiens, et Platon lui-même le rapportait d'ailleurs. Et ce que ajoute Sand, c'est que imaginer de plus qu'elle était très vraisemblablement une noire apparaissait excessif et effrayant. C'est-à-dire qu'ici le bouquin de Bernal a fait véritablement scandale, parce qu'il dit en gros les Grecs ne sont pas des Aryens, ils ne viennent pas, ils n'ont pas une origine indo-européenne, ils s'inspirent beaucoup d'où ? Ben, du continent africain. Et alors ça c'est assez, moi je trouve que c'est assez croquignolet, parce qu'il dit justement que l'idée que l'imagination créatrice ait pu y être suscitée, donc en Grèce antique, et cristallisée à partir de sources sémites et africaines, embarrassait les gardiens intégristes du temple de la culture classique. Et donc là-dessus, il y a quand même un truc rigolo, c'est que justement, ce qu'il essaie de montrer, c'est que c'est lors de la Renaissance qu'on a essayé de blanchir, la culture grecque. On a essayé de faire croire que elle était complètement, indo-européenne, arienne, et pas du tout africaine. Donc, alors que, bon, par exemple, alors ça aussi, ça me fait plaisir quand même, parce que, vous savez, j'ai 2-3 obsessions, et une de mes obsessions, c'est de faire chier les Heideggeriens. Et je les déteste. Et donc, par exemple, chez Heidegger, justement, mais ça, j'y reviendrai, parce que c'est intéressant, le rôle qu'a pu jouer la Grèce antique dans la construction de l'image européenne, c'est que chez Heidegger, la langue grecque, c'est la langue primitive de la pensée, celle qui dévoile l'être, celle qui nous fait accéder à une vérité plus haute. Sa seule héritière, c'est la langue allemande, etc., etc. Bon, cette espèce de sale antisémite nazi de Heidegger, évidemment, il aurait été très très embêté d'apprendre que, je cite Sand, que personne n'a osé contredire explicitement Bernal sur l'origine phénicienne de l'alphabet grec, ni sur le fait que les racines grammaticales d'un quart du lexique hellénique, tout dialecte confondu, ont une origine sémite. Bon. Voilà, ça me fait rire. Il ajoute, dans la grande polémique autour de l'essai de Bernal, un point retient particulièrement l'attention. La présence égyptienne dans la culture grecque est niée ou minimisée avec une vigueur qui n'a d'égal que la conception naturelle de cette dernière comme précurseur immanent de la civilisation occidentale. Autrement dit, on constate un besoin européocentriste, pas toujours conscient, de créer un roman européen continu et complet en nette rupture avec le versant oriental et issu au contraire d'un dialogue historiographique intime avec la civilisation occidentale. Donc ici, globalement, ce qui veut dire, c'est qu'on rejette l'idée que la culture grecque aurait une origine égyptienne et donc africaine, d'accord ? Et on le rejette d'autant plus qu'on imagine que la culture grecque est à l'origine de la culture européenne et occidentale. Et Sand va plus loin en disant... Dans quel sens la Grèce constitue-t-elle vraiment l'antiquité de la société européenne ? Et pour lui, ça n'a sans doute pas de sens de dire que les Grecs sont nos ancêtres. Donc, je voulais peut-être vous lire un dernier passage. Non, je vous l'ai lu tout ce que je voulais. Bon, on va passer un morceau de musique, histoire de se détendre. Et puis, on reviendra ensuite.
Voilà. Barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledou. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis plongeaient sur la nourriture. Au petit Jules Péric, qu'était rachitique, on jetait les épluchures. Poilu, barbu, le druide à noble tête, arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi, c'était la loi des Gaulois. Quand il guerroyait, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur apprédit, ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire, Astique allait faire de lance. Vercingétorix, un dur incaïde, étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César arriva sur son char. Il leur a dit, veni, veni, vidi, vici. On se tira les tifs, on se tapa sur le pif, mais on vit bientôt les légions. Des Romains pompettes qu'aimaient la piquette se coller dans la vase de Soissons. La Gaule manque de bras, dit un chef gaulois, il faut retrousser nos manches. Ils firent des maisons, ils firent même les ponts, sauf le samedi et le dimanche. Poilu, barbu, il guinchait le samedi, au bal sur pilotis. Flânant, crânant, on causait entre poteaux en regardant les Gauloises jouer les pompadours. Et la Gaule en dimanche chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit. Donc, Michel au micro, José aux commandes. Et voilà, donc je vous parle ce soir de Shlomo Sand, un livre de Shlomo Sand, l'historien israélien qui enseigne à Tel Aviv et qui est aussi antisioniste. Ouais, c'est toujours compliqué de dire ça, mais qui est contre la politique en tout cas menée par l'État d'Israël actuellement. C'est un bouquin qui s'intitule Crépuscule de l'histoire, la fin du roman national. Et je vous parlais du fait que Shlomo Sand s'attaquait à un des mythes fondateurs, finalement, de la conscience de soi européenne. Et ce mythe fondateur serait justement la continuité historique et géographique qui existerait entre nous et les Grecs. Donc, une continuité qui serait purement indo-européenne et qui n'aurait absolument rien à voir avec des endroits aussi désolés que l'Égypte, par exemple. Donc, là-dessus, évidemment, il en montre les soubassements, tout à la fois racistes et nationalistes, pour parler simplement. Et donc, son idée, à lui, c'est que, nous ne sommes pas grecs, mais que la civilisation méditerranéenne, on peut être considérée comme une sorte d'époque médiévale importante, qui, en fin de compte, là je le cite, a joué un rôle de médiateur entre l'Antiquité de l'Asie occidentale et l'avènement postérieur du Nord-Ouest européen. Et donc, son idée, c'est qu'en fait, il faudrait plutôt substituer la périodisation Antiquité gréco-romaine, Moyen-Âge, temps moderne, à époque contemporaine, un schéma qui situerait trois structures agraires par rapport à l'agriculture, donc, où il y aurait d'abord la Mésopotamie égyptienne, puis la culture méditerranéenne, et enfin la culture nord-européenne, chacune empruntant à l'autre quelques éléments, et particulièrement des éléments techniques. Il n'y a pas, si vous voulez, un engendrement, nécessaire d'une culture par une autre. Et donc, il y a une discontinuité radicale aussi entre ces trois grands ensembles que seraient, mettons, pour simplifier, la Mésopotamie, Athènes-Rome et puis l'Europe. À partir de là, se pose un autre problème, c'est on constate quand même qu'il y a eu une espèce de dynamisme spécifique au nord-ouest de l'Europe par rapport aux autres civilisations agraires. Et là encore, on est tombé sur des explications explicitement racistes qui attribuaient finalement au génie du peuple européen ce progrès agricole absolument incroyable. Bon, Sand, lui, pense que c'est nettement plus lié finalement aux conditions climatiques et au fait que si vous voulez labourer de la terre en Mésopotamie, en Irak, vous avez besoin d'une charrue légère qui peut être portée, qui peut être tirée par un homme. Il suffit de creuser 10 cm dans la terre pour pouvoir planter tranquillou. La terre est pas très très lourde. Bon, c'est relativement facile de labourer. En Europe, c'est une autre histoire parce que la terre est lourde et mouillée. Et il a fallu inventer une charrue lourde. Tiré par des animaux avec un soc en fer. Et en fait, ce soc métallique a imposé tout le développement d'une métallurgie, de mines, de forges, de tout un tas de trucs qui ont boosté l'économie, la division du travail en Europe. Ce qui fait que lui, il voit en partie, c'est presque mécanique. C'est vraiment lié aux difficultés qu'ont dû rencontrer les Européens pour l'agriculture, que tous les progrès techniques sont ensuite apparus. Donc, nul génie intrinsèque de la population européenne, simplement des obstacles. Bon. Donc, vous mettez des Européens partout ailleurs, ces obstacles ne se présentent pas. Pourquoi se casserait-ils la tête à inventer tout un tas de trucs? Non, ils n'en ont pas besoin, ils le font pas. Alors, là-dessus, donc, il revient un petit peu là-dessus, parce que c'est un thème très très important, sur l'invention de l'Antiquité. Bon, l'invention des périodes historiques, c'est le grand truc de Graeber. Il y avait l'invention de l'Europe, il y a aussi l'invention de l'Antiquité qui en fait partie. Et ce qu'il souligne, lui, c'est qu'environ 1000 ans s'écouleront, du 5e au 15e siècle, avant que l'Europe érudite commence, soudain, à découvrir son ascendance gréco-romaine et son identité européenne. En gros, nous sommes... les Grecs sont devenus nos ancêtres au 15e siècle. Auparavant, qu'est-ce qui s'était passé? On les avait complètement oubliés. mais complètement oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne les lisait, tout simplement, parce que leur texte n'était pas disponible, que personne ne s'en souciait, et que les références des élites dirigeantes de cette époque étaient tout sauf grecques ou romaines. D'accord? Là-dessus, comment dire, en fait, ceux qui, alors ça c'est connu, il n'y a pas que Sand qui le soutient, hein, la plus grande partie des textes grecs étaient conservés finalement par les musulmans. Ça fait partie des choses qui ont été contestées par un historien récemment qui a prétendu qu'il y avait un autre canal qui avait permis aux textes grecs et latins de parvenir en Europe, une abbaye quelconque, j'oublie laquelle. Mais bon, le souci c'était qu'une seule abbaye. Enfin bon, alors que les textes d'Aristote, les textes de Platon avaient été traduits en arabe et on les a retrouvés en chassant les musulmans d'Espagne et avec la comment dire, je crois aussi du côté de Byzance. Mais globalement. Les musulmans étaient plus des héritiers des Grecs que nous l'étions. En tout cas, ça c'est au moins d'un point de vue philosophique. Et donc l'idée, oui, mais après il part du XVIIIe siècle et il dit que justement, même quand au XVIIIe siècle on a emprunté aux cultures de la Méditerranée, en fait on l'a fait en modifiant radicalement le sens des mots. Donc, par exemple, les mots démocratie, république et citoyenneté étaient sur toutes les lèvres au XVIIIe siècle et allaient bientôt devenir des guides pour l'action. Cependant, ces maîtres du langage, les philosophes des Lumières, n'avaient pas conscience que, ce faisant, ils changeaient toujours radicalement l'ancienne signification des mots. En effet, si Machiavel, dans sa conception de la République, évoque encore les doctes de Rome, tel n'est plus le cas avec Jean-Jacques Rousseau. Rien n'est plus étranger à celui dont le principe politique central repose sur l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux et doivent donc participer au choix de celui qui exercera sur eux-mêmes la souveraineté. Donc rien n'est plus étranger à Rousseau que la culture esclavagiste grecque ou romaine. Sans les esclaves, la démocratie directe de l'Athènes classique n'aurait pas pu fonctionner. Pareil au sujet du libéralisme. Le libéralisme juridique et politique ne vient pas du tout et ne pouvait pas venir de l'Antiquité. Il parle dans ce cas-là, enfin Sand parle dans le jeu qu'il y a entre l'espèce de correspondance qu'on essaye de faire entre l'Europe actuelle et l'Antiquité. Il parle d'un jeu imaginaire infini, des parallélismes voués à créer, depuis l'Antiquité, un continuum historique solide de la civilisation blanche. Donc ici on est dans la mythologie la plus totale. Et alors il s'amuse un petit peu parce qu'il dit on pourrait aussi trouver un autre exemple, peut-être moins attendu. En disant que, par exemple, la réapparition en Occident du commerce des esclaves et l'utilisation massive de leur travail dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, non autant que je sache, conduit aucun européocentriste à prétendre que cet horrible phénomène découlait de l'héritage antique gréco-romain. Ouais, après tout, nous aussi, on avait des esclaves comme les Grecs. Évidemment, ça, pour le coup, ça, on ne le rappelle pas, forcément. Alors, lui, il pense que, justement, il n'y a pas forcément, là aussi, la continuité historique est erronée. C'est-à-dire que l'expansion de l'esclavage au XVIIIe siècle, à l'ère des Lumières, pour horrible qu'elle ait été, ne répondait pas aux mêmes besoins que durant l'Antiquité. C'était deux formes d'esclavage différentes. D'ailleurs, les populations concernées n'étaient pas les mêmes. Chez les Grecs et les Romains, c'était beaucoup de Grecs et de Romains ou de prisonniers de guerre qui étaient réduits en esclavage parfois pour dettes ou pour différentes choses. Au XVIIIe, c'était les Africains qu'on réduit en esclavage. Donc, là-dessus, il montre que c'est une continuité qui est fictive elle aussi, mais que curieusement, on n'a jamais insisté sur cette continuité possible. On insiste sur toutes les continuités positives, évidemment. Donc, là-dessus, de ce point de vue, lui, ce qu'il va dire, c'est que finalement, la convocation de l'Antiquité comme point de départ de la construction européenne a servi à presque tous les historiens européens pour la construction d'identité nationale. Les Italiens, les Anglais, les Américains, les Hollandais, les Belges déployèrent beaucoup d'efforts pour souder leur patrimoine national particulier à leur passé, entre guillemets, gréco-romain. En fait, au XIXe et XXe siècle, l'Antiquité est apparue comme la première planche sur laquelle ont été déposés les romans nationaux de tous les peuples élus d'Europe. Imiter le modèle antique pour bâtir une identité collective est l'une des marques de la modernité instable. Donc, là-dessus, ils pensent que justement, c'est quasiment purement un roman. Et que finalement, qu'est-ce que va faire l'Europe à travers cette convocation de l'Antiquité? C'est tout simplement une autoglorification. C'est-à-dire que je vous lis encore, la thèse qui vaut en l'époque gréco-romaine le prélude de l'Europe a constitué et continue de constituer une appropriation douteuse d'un temps n'ayant pas véritablement appartenu aux Européens, mais qui au fil des siècles est devenu un élément naturel, entre guillemets, de leur identité. La mainmise par l'Occident, au détriment de toutes les autres civilisations, sur un tel capital symbolique, n'est pas dénuée de flatterie et d'autoglorification. L'histoire de l'Europe s'est ainsi faite beaucoup plus longue et beaucoup plus riche qu'elle n'est, et beaucoup et plus important encore, elle s'est érigée en une mythe-histoire blanche, sublime, où serait née pour la première fois la philosophie, les mathématiques, la science, le théâtre, la démocratie, la société civile et l'État, et bien d'autres choses encore. Donc à quoi nous sert l'Antiquité ? À croire qu'on a tout inventé. En gros. Donc, à partir de là, il est assez logique que le deuxième chapitre de l'ouvrage soit consacré à la question de savoir si l'histoire peut échapper à la politique. Donc on va voir ça après une pause.
Hello, soldier boy, boy, she's spewing up. Propaganda. Might be sweet if you are wrong or right, you better.
Propaganda.
Propaganda. Propaganda, come to our side, she does say. Come on over, she does say. When they don't need more competition for her affection, you should fight on, fight on over there. Where's your will to win to act like gunner then through? Propaganda, propaganda. Where's your will to fight to know what's wrong and right? And propaganda, propaganda, propaganda. Come on over, you will hear in a voice that comes in clear. Then I think of you, your skills are through. And you then must fight on, fight on over there. Duck that missile, fly that missile's whistles like a propaganda, propaganda. Keep your powder dry and always shy away from propaganda, propaganda, propaganda. Think it over, she will say. Jump off over, she will say. Well, I'm not a doctor, tell to each other how to fight, fight on, fight on. She does say, come on over, she does say. Defines our enemy and
propaganda.
Propaganda. Hello, G.I. Joe. Oh, no, I'll never go far.
Propaganda. Propaganda.
Propaganda. There's a loved one back at home who assumes that I'm alone. Say no to lies, say no to spies. I intend to be a groom soon, groom soon.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc, je vous présente ce soir un livre de Shlomo Sand, historien de l'Université de Tel Aviv, qui s'intitule « Crépuscule de l'Histoire, à la fin du roman national », c'est publié chez Champ Essai. Dans les parties précédentes de l'émission, je vous expliquais pourquoi, selon Sand, finalement, les Européens n'ont pas réellement pour ancêtre les Grecs. Pourquoi c'est une invention de la Renaissance qui a servi ensuite au XVIIIe et XIXe siècle à fonder plus solidement le mythe de nos nations, les nations européennes, en leur donnant un passé beaucoup plus long et beaucoup plus prestigieux qu'il n'était en réalité. Donc, à partir de là, Shlomo Sand, qui a beaucoup étudié en France à l'école des hautes études, s'intéresse finalement à l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette discipline, d'où est-ce qu'elle vient et tout. Et pour ce faire, il va aller à rebours, c'est-à-dire qu'il part, il part de la France et puis après il ira en Allemagne. Donc c'est assez intéressant, si vous voulez, de mon point de vue, si vous n'êtes pas historien et que vous ignorez tout ça, ou si vous êtes historien et que vous ignorez tout ça, parce que finalement on se penche rarement sur la naissance de la discipline qu'on appelle histoire. On a l'impression qu'il y a toujours eu des historiens. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et lui, donc, il part dès, alors, page 97 de l'ouvrage. Il explique justement quels sont les... en gros, avant le 19e siècle, il n'y a pas d'historiographie académique. Il n'y a pas de discipline nommée histoire à l'université. Et donc, il explique que depuis la création de l'historiographie académique au 19e siècle et jusqu'à la fin de la première moitié du 20e siècle, l'histoire politique, flanquée elle aussi de ses deux petites sœurs, l'histoire diplomatique et l'histoire militaire, avait été la discipline reine. Cependant, à partir des années 1950 jusqu'au début des années 1970, elle avait dû partager la suprématie avec l'histoire socio-économique. Désormais, tout en parvenant parfois à s'infiltrer dans les interstices que lui laissera l'histoire culturelle, elle ne revêtira plus les mêmes caractéristiques. La grande histoire politique nationale a cédé la place à des fragments d'histoire post-nationale. Là, je le trouve peut-être optimiste, parce que j'ai l'impression que la grande histoire nationale essaie de revenir par toutes les fenêtres et toutes les portes et tous les trous de souris qu'on peut. C'est-à-dire, ouais, je suis pas sûr que parler d'histoire post-nationale, ce soit vrai. Alors après, il est possible que dans la décomposition plus ou moins réelle ou fantasmée des États-nations, effectivement, il y a une espèce de retour du refoulé nationaliste. Je sais pas trop, mais bon, on parle quand même de refaire chanter la Marseillaise aux enfants. Donc je suis pas du tout sûr qu'on soit passé à l'époque, à une époque des fragments d'histoire post-nationale. Mais bon, on va voir ça à la limite, ça ce serait une discussion qu'il faudrait voir. Mais voyons voir, oui, je voulais vous parler du fait que, ouais, justement, donc il y a eu l'histoire politique qui domine jusque dans les années 40-50 en gros, et ce que Sand rappelle, c'est que justement, il y a une rupture dans les années 30, à partir des années 30 plutôt. Ça commence dans les années 30 et ça s'installe vraiment après la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'en France, il y a une école historiographique qui va naître et qui s'appelle l'École des Annales. Et l'École des Annales, donc c'est Marc Bloch et Lucien Febvre qui vont la fonder. Et justement, eux commencent à s'élever contre l'histoire politique événementielle. L'histoire politique événementielle, pour eux, c'est superficiel. C'est globalement, ça correspond à l'histoire des rois, des reines, des conflits, des guerres, des héros de guerre, etc., etc. Jamais on va faire l'histoire des paysans, jamais on va faire l'histoire des petites gens, jamais on va s'intéresser à la production agricole, etc., etc. Bon, donc ça, ce serait l'histoire politique événementielle. Et justement, pas mal d'historiens français commencent à douter de sa pertinence et de sa scientificité à partir des années 30. Et ce que remarque Sand, donc, c'est que cette hostilité à l'égard de l'histoire politique classique n'a jamais débouché sur une critique de l'historiographie nationale politique, encore dominante dans tous les dispositifs de recherche et de diffusion du savoir historique. C'est-à-dire que des gens comme Bloch ou Febvre, qui étaient d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, sont restés malgré tout nationalistes. Et assez curieusement, il remarque, enfin c'est pas très curieux finalement, c'est assez logique, bon, il remarque que les Annales, la revue des Annales a été publié essentiellement des enquêtes économiques et sociales, alors tout d'abord plutôt sociales, après plutôt économiques, mais en gros c'était ça. Et ce qu'il remarque, c'est que cette revue a esquivé de manière presque systématique tous les sujets politiquement brûlants des années 30. Et ça permettra d'ailleurs à Lucien Febvre de poursuivre son travail sous l'occupation. Alors, le prix à payer était relativement léger, hein, pour Febvre en tout cas, puisque ça a été simplement au prix de la suppression du patronyme juif de Marc Bloch dans le comité de rédaction et dans la publication. Bon, Marc Bloch est très très célèbre chez les historiens parce que, bon, combattant de la Première Guerre mondiale, officier de l'armée française, juif, résistant en 40, fusillé, je sais plus trop quand, dans les années 40, avant 43, je crois qu'il est fusillé. Donc bon, on a supprimé son patronyme et puis les Allemands se sont chargés de le supprimer lui physiquement. Mais tout ça, voilà, ça a permis à la science historique d'avancer, il faut croire. Ça fait... Heidegger, il est cité d'ailleurs par Sand, avait lui aussi retiré le patronyme juif de son maître Edmund Husserl en tête d'être étant. C'était à la mode à l'époque. Donc, désolé. Voilà, on a toutes ces obsessions. Alors, les héritiers de l'école des Annales, d'école de Febvre donc, et de Marc Bloch, ce sont Mandrou et Brodel. Brodel est le plus connu. Fernand Brodel, Et lui va mettre en place une histoire très très structuraliste et quantitative qui est complètement dépolitisée, qui n'aborde plus aucun thème chaud, parce que justement les historiens, de ce point de vue-là, en fait c'est assez curieux, sous prétexte d'abandonner l'histoire politique, font une histoire dépolitisée qui a des effets conservateurs d'un point de vue politique, puisque jamais ils n'abordent les sujets critiques. Et donc c'est ce que Sand dénonce comme un certain positivisme. Cela ressemblait à un retour général aux années 1930, mais avec cette fois-ci, donc ça c'est Braudel dans les années 50, mais avec cette fois-ci une insistance encore plus forte sur la sacralisation scientifique de l'existant. Des choses qui sont, des choses qui existent. L'école des annales, à l'époque de Fernand Braudel, a créé une historiographie positiviste au plein sens du terme, malgré quelques appels du pied en direction du marxisme populaire et le compagnonnage du socialiste Ernest Labrousse avec la revue. Donc, le terme positivisme est à prendre au sens suivant, enregistrement et sacralisation de la réalité, au passé comme au présent, avec une neutralisation de la dimension critique dans sa compréhension et son décryptage. Une telle écriture de l'histoire, qui refusait toute projection vers le futur, s'accompagna dans une large mesure d'une perte de sens. Aussi vite, à partir d'un moment, la forte influence de l'historiographie sociale commença à décliner. En gros, l'histoire des annales, ça emmerdait tout le monde parce que c'était que des tableaux incompréhensibles remplis d'études quantitatives sur la quantité de grains ramassés en France entre 1865 et 1870. Et à lire, c'était juste un cauchemar. Et comme les gens qui écrivent aiment de temps en temps bien être lus, ils se sont aperçus qu'il fallait peut-être changer de braquet. Et ça a donné le retour au narratif avec ce qu'on a appelé l'histoire culturelle. Et ça a sonné l'échec de l'histoire quantitative qui, justement, s'était épuisé. Comme il dit, les chiffres et les tableaux et les courbes, c'est important pour la construction du passé, deviennent de moins en moins accessibles aux lecteurs intellectuels non spécialistes du sujet. Et c'est d'autant plus qu'en termes de savoir, les grandes montagnes quantitatives ont fréquemment accouché de toutes petites souris. L'histoire analytico-quantitative, quoi qu'elle en dise, a le plus souvent échoué à répondre aux questions du pourquoi. Et donc ils vont revenir finalement à des choses qu'ils avaient répudiées auparavant, et en particulier au récit. Et donc, qu'est-ce qu'on va garder de cette période, de l'école des annales dans l'histoire culturelle ou l'histoire des mentalités, et aussi sous l'influence du marxisme de l'époque? C'est un désintérêt, donc à la fois un désintérêt pour les couches supérieures de la société et un intérêt marqué pour le temps long des paysans et des petites gens. Ça va être toute l'histoire vue d'en bas. Alors là, bon, Sand relève un problème assez intéressant sur lequel il va revenir, c'est que les oubliés de l'histoire finalement n'ont jamais écrit. Et qui écrit sur les oubliés de l'histoire? Les puissants. Et le problème, c'est ce que souligne Sand, c'est que longtemps l'histoire a été écrite par les élites, qui s'appuyaient sur des documents laissés par des élites au sujet des élites. Et par conséquent, essayer de faire l'histoire des petites gens, des gens de peu, des gens qui n'ont pas laissé de traces, est quasiment impossible, parce que à chaque fois, c'est pas parce qu'on change d'objet finalement qu'on change de source, et on peut pas inventer des sources qui n'ont pas été faites à l'époque. Donc il va prendre pas mal d'exemples sur l'histoire d'en bas, où finalement, par exemple, c'est lequel exemple, celui-là, celui où, oui, c'est Montaillou de Le Roi la Durie, qui s'intéresse à un village d'hérétiques qui a attiré l'Inquisition. Et le document, qu'est-ce que c'est? Le document, c'est quelque chose qui a été établi par un inquisiteur qui deviendra pape, qui ne parle pas la même langue que les gens qu'il torture pour obtenir des informations. Et c'est à partir de là que le roi la Durie essaie de faire l'histoire de ce village. Et donc évidemment, là, sûr, t'as un obstacle énorme, c'est parce que c'est la voix de qui sur laquelle on s'appuie? C'est la voix de l'inquisiteur, c'est la voix du tortionnaire. Et pas du tout la voix des sujets qui sont étudiés. Et donc, assez vite, les historiens vont s'apercevoir de ce petit souci, et plutôt que... En fait, ils vont revenir insensiblement à l'histoire des élites, écrite par les élites. C'est beaucoup plus simple. Pour prendre un exemple, Giordano Bruno, donc un savant célèbre qui a été brûlé par l'Inquisition, par l'Église catholique au XVIIe siècle. Lui, c'était un savant, donc il a écrit. Donc si on veut faire, c'est beaucoup plus facile de faire, si vous voulez, l'histoire d'un hérétique comme Giordano Bruno, qui faisait partie de l'élite italienne, malgré sa fin tragique, que l'histoire des paysans que tout le monde a oublié. Mais à partir de là, va se poser aussi une question, c'est que si on recommence à faire l'histoire, comment dire, des élites par les élites, on peut se demander finalement à quoi répond et à quoi sert l'histoire, à quoi ça sert tout ça. Si l'histoire ne nous parle pas du présent, si l'histoire ne nous parle pas de la majorité des gens, si l'histoire ne nous parle que des élites pour les élites, pourquoi en faire ? Et donc lui, ce qu'il souligne, c'est que justement, comment dire, les questions importantes qui auraient pu être prises en charge par les historiens étaient finalement prises en charge par les journalistes, les romanciers, les philosophes, les cinéastes. Parce que les historiens sont restés toujours éloignés des sujets qui fâchent. Au moins, les historiens français ont vu, quand il faut aborder l'histoire de France, donc que ce soit Vichy, Leveldive, la décolonisation, la guerre d'Algérie, en gros, tous les historiens de l'époque n'en parlent absolument pas. Et ne veulent pas en parler, de toute évidence. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer chez les historiens ? Ben, certains vont quand même aller vers l'histoire politique contemporaine, mais dans ce cas-là, ils vont quitter le sérail académique et se diriger davantage vers, finalement, la presse, en réalité. Et d'autres vont inventer un nouveau champ de recherche qu'on appelait les lieux de mémoire. Ça, c'est avec Nora, Pierre Nora. Mais là encore, ce que souligne Sand, c'est que c'est une histoire... les lieux de mémoire, finalement, vont aller vers une mémoire non conflictuelle, indolore. C'est-à-dire, quels sont les lieux de mémoire qui sont célébrés par Nora et les historiens qui l'accompagnent ? C'est le Louvre, mais c'est pas Trafalgar ou Waterloo. C'est le drapeau tricolore, mais pas Vichy. C'est le Panthéon, mais pas Dien Bien Phu. Donc, pour lui, pour Sand, alors là, je suis pas sûr d'être d'accord, c'est-à-dire que ce triomphe de la mémoire et de la mémoire comment dire, réconciliatrice, c'est aussi, ce n'est presque que l'ombre de l'agonie de la nation. Bon, faudrait voir. Parce que comme il le souligne après, finalement, il pourrait pas y avoir de mémoire collective sans un État. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas d'histoire écrite, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et globalement, la mémoire collective, c'est tiole. Avec un État qui paye une école, qui paye des profs, qui apprend l'histoire aux gamins depuis le début, il y aura une histoire. Mais cette histoire sera quasiment toujours ce que Sand définit comme une mémoire pouvoir. Alors, et oui, et puis... Et finalement, dans cette histoire officielle, dans cette mémoire pouvoir, les sujets conflictuels n'apparaîtront sur la scène officielle que quand les sujets concernés ont disparu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à parler du rôle de l'esclavage dans l'enrichissement de la France que quand on a aboli l'esclavage d'une certaine manière, que quand on a l'impression que le problème a disparu. Autrement, on n'en parlera jamais. Donc bon, je pourrais continuer... comme ça pendant longtemps, parce que là je vous ai parlé que d'une partie des deux premiers chapitres, il y en a trois, parce qu'après il s'attaque justement à la naissance de l'histoire, à la naissance de l'histoire comme discipline historique, et là il va montrer que les premiers historiens sont très très souvent aussi des politiques, et des gens qui, enfin presque tous les historiens d'ailleurs du passé, sont quasiment tous des privilégiés, quasiment tous proches des milieux de pouvoir, voire participant activement au pouvoir. Donc c'est assez... Alors moi je vais arrêter là, c'est un livre que je vous conseille vivement, parce que il est vraiment très très riche. Un autre de ses avantages, c'est que d'un point de vue théorique, il n'est pas fermé. Sand n'a pas un style qui clôt la réflexion. C'est au contraire un style qui, je trouve, m'invite à réfléchir avec lui, voire à le contredire. Et donc c'est assez appréciable. C'est pas vraiment un livre de théoricien, c'est plutôt un livre d'un historien engagé qui réfléchit à sa pratique intellectuelle et qui va là où ça fait mal pour sa propre chapelle, sa propre discipline. C'est pas tous les jours. Les philosophes et quelques autres pourraient en prendre du grade. Donc voilà, alors on va passer un petit peu de musique et puis ensuite ça va être Willy sur Entre Chien et Loup qui prendra la suite de l'antenne. Voilà, donc à bientôt.
There's life. lots of things in a human head that I hope I never have to touch. She likes the taste of burning flesh. The skin right off her face and left it lying on the bathroom floor. I put it into my suitcase. I couldn't leave it like that just in case she'll want it back. Joan, Joan of Arc, he's burning.
We have birds.